Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Adèle Gaglar.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, faut-il mettre fin au monopole des GAFA ? Les taux se resserrent autour des géants du numérique. Les procureurs généraux de 50 États et territoires américains ont lancé cette semaine une enquête pour abus de position dominante à l'encontre de Google. L'entreprise Superstar capte en effet à elle seule près d'un tiers du marché mondial de la publicité en ligne. Quelques jours auparavant, c'est Facebook qui était visé par une autre enquête antitrust. La concentration des entreprises du numérique est désormais dans le collimateur des autorités aux États-Unis comme en Europe. Devenues trop puissantes, elles sont de plus en plus considérées comme un danger pour l'économie et la démocratie. Alors faut-il démanteler les géants du numérique ? Quelles menaces représentent-ils pour la concurrence et l'innovation ? Et faut-il repenser le droit pour mieux lutter contre le pouvoir des plateformes ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h50, on retrouvera la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Et pour parler du droit de la concurrence à l'assaut des GAFA, trois invités autour de la table. Bonjour Emmanuel Combe.
Bonjour Tiphaine.
Vous êtes professeur d'économie à Schema Business School et vice-président de l'autorité de la concurrence. À vos côtés, François Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Mines Paris Tech et auteur de cet ouvrage « Les habits neufs de la concurrence » publié chez Odile Jacob. Et enfin, Pierre-Jean Bengosi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école polytechnique, directeur de recherche au CNRS et ancien membre du Collège de l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes, l'ARCEP. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Today, 50 attorney generals.
Aujourd'hui, 50 procureurs généraux des différents États et territoires lancent une enquête sur le potentiel comportement monopolistique de Google. Dans le passé, lorsque nous faisions des recherches sur Google, on nous présentait des liens vers des sites qui n'avaient aucun rapport avec d'autres activités de Google.
Very compelling analyses suggest that the overwhelming
Une étude très convaincante suggère qu'un nombre écrasant de réponses aux questions concerne les entreprises de Google et ou les annonceurs qui payent pour ça. Nous nous préoccupons également des entreprises, surtout les petites, qui pourraient mettre la clé sous la porte en raison de ce pouvoir monopolistique. C'est un cadre inhabituel. Je suis à côté d'amis avec lesquels je suis parfois en violent désaccord, mais nous agissons ensemble aujourd'hui.
Voilà le procureur général du district de Columbia, Carl Racine, l'un des 50 procureurs généraux ayant lancé cette enquête antitrust contre Google lundi. Seuls l'Alabama et la Californie, siège de Google, ont choisi de ne pas participer à cette investigation. Et la conférence de presse a eu lieu devant les colonnes de la Cour suprême des États-Unis. Une mise en scène assez soignée qui prouve, François Lévesque, que les autorités américaines prennent désormais la question du pouvoir excessif des GAFA très au sérieux.
Ce qui prouve que les politiques, puisque en fait ce sont des ministres de la justice qui fédéraux, des États fédéraux qui se sont réunis, ça prouve que les politiques veulent plutôt pousser les autorités de la concurrence, y compris peut-être même la Cour suprême, à être un peu plus sévères en matière de concurrence. Parce que la Cour suprême, c'est pas un hasard devant la Cour suprême. La Cour suprême a pris toute une série de décisions au cours des 10 dernières années, qui sont des décisions qui rendent relativement difficiles le travail des autorités de la concurrence pour condamner des entreprises qui auraient abusé de leur position dominante.
L'idée est peut-être de reproduire ce qui s'était passé dans les années 90, Emmanuel Combe, autour du cas Microsoft, qui avait été accusé d'utiliser son monopole sur Windows pour entrer sur de nouveaux marchés.
Oui, en réalité, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que depuis une quinzaine d'années, l'antitrust a été un petit peu mis en sommeil, en tout cas sur cet aspect abus de position dominante. C'est moins vrai sur les cartels. Les Américains ont toujours été très allants sur ce sujet. Donc, en effet, c'est un peu un retour de l'intérêt pour ces questions d'abus de position dominante. Mais vous l'aurez noté, Tiphaine, on parle bien d'abus la position dominante en tant que telle ne saurait être condamnée. Google est en position dominante, je ne pense pas qu'elle le conteste d'ailleurs, sur le moteur de recherche. En Europe, elle a plus de 90% de part de marché. Ce n'est pas ça qui lui est reproché. Google a 80% à peu près des operating systems, des systèmes d'exploitation pour smartphone avec Android. On ne lui reproche pas d'avoir 80% de part de marché. Même chose sur la publicité en ligne. Vous parliez tout à l'heure de 30%. Si on prend plutôt le segment de la publicité lié aux recherches, quand vous tapez un mot sur Internet, vous avez un résultat, eh bien, elle aurait plutôt 70% de part de marché. Mais ce qui est en jeu, ça n'est pas la position dominante, c'est l'usage qu'elle en fait.
Et on va voir qu'effectivement, la difficulté pour les autorités de la concurrence, c'est de prouver qu'il y a effectivement abus. Mais d'abord, Pierre-Jean Bengozy, comment expliquer l'inaction des autorités de la concurrence américaine vis-à-vis des GAFA jusqu'ici ?
C'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que les autorités américaines antitrust, y compris au début du XXe siècle, ont été extrêmement actives et n'ont pas hésité à démanteler des grandes compagnies. Hein, les grands secteurs de l'énergie ou du cinéma ont énormément souffert, de ce point de vue-là, de décisions très volontaristes des antitrust.
On peut citer le cas emblématique de la Standard Oil de John Rockefeller, voilà. qui est démantelé en 1911.
Tout à fait, y compris les grands studios hollywoodiens qui ont aussi été démantelés dans les médias après-guerre. La différence aujourd'hui, c'est qu'on était à l'époque dans une situation relativement nationale, où les enjeux étaient essentiellement nationaux. On devient aujourd'hui dans une situation qui est beaucoup plus marquée par une concurrence entre les pays et où la force des entreprises américaines sert d'une certaine manière la nation américaine par rapport à la concurrence avec d'autres pays.
Donc les États-Unis n'ont pas voulu fragiliser leurs champions nationaux.
Exactement, et on voit bien les réactions qu'a pu avoir Donald Trump par rapport aux initiatives de la Commission européenne récemment ou de la France en matière de fiscalité sont des défenses d'une certaine manière des grandes entreprises américaines, des grandes GAFA, au nom de la capacité de défendre les champions nationaux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a un certain nombre de faits qui sont reprochés à Google, mais aussi à Facebook, à Amazon et à Apple. On peut s'arrêter un instant sur Amazon. Ce qu'on lui reproche, c'est d'exploiter les données de ses clients au détriment des vendeurs tiers. François Lévesque, on voit que dans le cas de chaque géant du numérique, ce sont sur des cas de figure un petit peu différents que les reproches sont formulés.
Oui, à chaque fois, parce que les métiers ne sont pas les mêmes, les business ne sont pas les mêmes. Et dans le cas d'Amazon, le problème, c'est que cette entreprise est à la fois une place de marché, donc comme un grand magasin, sauf qu'Amazon est virtuel, et donc elle a des entreprises qui... Enfin, comme grand magasin, elle achète des biens et des produits, et puis elle les revend. Mais elle est aussi, donc ça c'est le côté grand magasin, mais elle est aussi place de marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui exposent sur l'écran, comme des corners dans les grands magasins, leurs produits. Et donc d'être sur les deux métiers, si elle voit que une entreprise vend bien des couches culottes ou vend bien un autre produit, eh bien, elle va se dire que c'est peut-être intéressant pour elle, grâce aux données, elle saura ça, elle aura des informations, ça sera peut-être intéressant qu'elle devienne magasin et pas simplement place de marché.
D'où les accusations de conflit d'intérêts.
Voilà, donc c'est une espèce d'intégration verticale et qui pose problème et pour lequel les autorités de la concurrence sont très vigilantes.
Les choses sont un petit peu différentes pour Facebook. Emmanuel Combes, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir constitué un monopole des médias sociaux, notamment en rachetant Instagram et WhatsApp.
Oui, alors ce qui est intéressant dans cette histoire d'abus, c'est qu'il y a vraiment deux formes d'abus qu'il faut bien distinguer. Il y a, comme l'a dit François, ce qu'on appelle des abus d'éviction. Je suis dominant sur un marché, je le répète, j'ai le droit d'être dominant et je vais en profiter pour utiliser cette dominance pour faire un effet de levier, pour essayer de marginaliser mes concurrents sur d'autres marchés. Ça, c'est de l'éviction. Et dans le cas de Facebook, elle a été notamment poursuivie en Allemagne, cette fois-ci pour un abus d'exploitation. En clair, nous sommes quasiment tous sur Facebook. Et donc, puisque nous sommes sur Facebook, Facebook va utiliser ce pouvoir pour, entre guillemets, nous exploiter. Alors, quelle forme peut prendre l'exploitation ? Par exemple, ne pas demander aux personnes leur consentement. Donc, en Allemagne, elle a été condamnée, en réalité, pour n'avoir pas demandé aux internautes leur consentement. Donc, vous voyez, c'est deux types d'abus relativement différents. Autre exemple d'abus d'exploitation, je ne crois pas qu'il a encore prospéré, mais théoriquement, ça serait possible. On pourrait imaginer une plateforme qui devienne la seule, pensez à Uber, par exemple, et une fois qu'elle est seule, elle va avoir tendance à augmenter les prix, notamment les commissions qu'elle demande aux chauffeurs. Ça s'appellerait un abus d'exploitation sous la forme d'un prix, entre guillemets, excessif. Donc, il y a vraiment deux types d'abus. On est plutôt aujourd'hui sur des abus d'éviction, mais on ne peut pas... on ne peut pas ne pas songer à cette autre forme d'abus qui consiste finalement à exploiter sa position dominante, notamment vis-à-vis de ses clients ou de ses consommateurs.
Donc différentes formes d'abus que les autorités de la concurrence doivent parfaitement maîtriser, mais surtout apprendre à repérer. Et alors ce qui est intéressant, comme le soulignait Karl Racine, c'est qu'il y a un consensus aujourd'hui aux États-Unis sur ce sujet entre démocrates et républicains. Ça, c'est assez inédit, Pierre-Jean Bengosi.
Je pense que la question des plateformes aujourd'hui, la nécessité de les réguler, elle tient à des questions de concurrence qu'Emmanuel Combes vient d'évoquer à l'instant. Mais en fait, le problème, c'est que les plateformes aujourd'hui, par leur poids, interviennent et remettent en cause toute une série de questions qui ne sont pas simplement des questions de concurrence. Il y a des questions de concurrence, mais il y a aussi les questions de fiscalité. Est-ce qu'on paye ou non l'impôt juste par rapport au chiffre d'affaires, aux revenus, etc., qu'on fait sur un territoire donné? Il y a la question de protection des données personnelles, on l'a bien entendu évoqué à propos de Facebook et vous-même souligné. Il y a les questions de souveraineté nationale, le débat est en train de monter aujourd'hui autour de Libra et la proposition de créer une monnaie virtuelle contrôlée par Facebook. Il y a la question du marché du travail. Vous soulignez que la Californie ne s'était pas joint aux 50 procureurs américains pour faire un recours contre Google, mais par contre la Californie a sanctionné Uber en requalifiant le statut des chauffeurs d'Uber comme salariés. Et puis il y a les questions de relations au sein des mêmes filières industrielles entre les plateformes et les autres acteurs économiques, que ce soit les opérateurs télécoms, les fabricants de voitures, etc.
Donc l'offensive se situe sur plusieurs fronts, et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui, François Lévesque, que républicains et démocrates s'associent pour mettre fin à ce pouvoir dominant des GAFA. On était habitué jusqu'ici à plutôt entendre la voix des républicains contre les GAFA, et notamment Donald Trump contre le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. On a entendu beaucoup les républicains se plaindre de l'hyperpuissance des GAFA.
Cette contestation de l'hyperpuissance, elle a fondamentalement un ressort politique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une montée du populisme. Et le slogan qui consiste à s'attaquer aux grands, aux géants, aux gros, à ceux qui font et à qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'emploient que des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est un slogan qui est relativement porteur dans un contexte politique comme celui-là. Il a été beaucoup porté et continue d'être porté par les démocrates dans le cadre de la campagne pour les primaires, avec des propositions relativement dures.
Notamment Elizabeth Warren, la sénatrice candidate à l'investiture démocrate, qui, elle, propose carrément de démanteler les GAFA.
Absolument. Mais les républicains ont aussi une poussée de populisme qui est évidemment extrêmement visible. Et donc là, il y a un consensus de différents politiques pour contester ces géants et ces entreprises trop grosses, finalement.
Emmanuel Combes.
Oui, au-delà du consensus, il y a aussi des faits qui sont maintenant relativement, je dirais, partagés par tous les économistes. Après, on peut discuter de l'interprétation des faits. C'est un retour de la concentration industrielle aux États-Unis. Je crois d'ailleurs qu'il y a le bouquin de Thomas Philippon qui va sortir sur ce sujet. Il semblerait qu'il y ait vraiment une division entre l'Europe, où on voit que la concentration industrielle, c'est-à-dire mesurée par exemple par la part de marché des 4 ou 5 plus grandes entreprises, a assez peu varié depuis 15 ans. Et on voit aux États-Unis, pas seulement chez les GAFA, on voit un retour de la concentration industrielle, ce qui n'est pas un mal en soi, ça peut être lié au fait qu'il y ait des économies d'échelle, des coûts fixes, mais qui peut-être aussi signifier qu'il y a eu un certain nombre d'abus de position dominante qui ont été commis et qui n'ont pas été sanctionnés. Je rappelle quand même qu'il y avait déjà eu une enquête sur Google en 2013 qui s'était clos sans suite. Donc on voit bien que les autorités américaines antitrust, sur le volet abus de position dominante, ont quand même relâché leur vigilance depuis une vingtaine d'années.
Alors vous dites, Emmanuel Combes, que ça ne concerne pas que l'économie numérique, cette concentration industrielle que l'on peut observer, mais en l'occurrence, ce qu'on constate tout de même, c'est que l'économie numérique favorise l'émergence de phénomènes de concentration, Pierre-Jean Bengosi.
Oui, elle les favorise, en gros, pour deux raisons. Il y a une première raison, c'est ce que les économistes appellent les externalités de réseau. C'est que les plus riches, finalement, ou les plus gros, on va au plus gros. Si vous essayez de vendre votre voiture sur Internet, vous avez intérêt à la vendre sur la plateforme qui a le plus de consommateurs, parce que vous aurez le plus de chances de toucher des acheteurs potentiels. Et pareil, si vous avez acheté quelque chose, vaut mieux aller sur le Bon Coin ou sur une autre, ou sur eBay, etc. Je n'ai pas de préférence particulière pour tel ou tel, parce que il y a le plus de le spectre de l'offre est la plus large possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des externalités de réseau. La deuxième raison pour laquelle ces questions se posent d'autant plus sur le numérique, c'est que le numérique permet une fluidité des modèles économiques et des reconfigurations des entreprises qui est absolument inédite. Elle permet de redéfinir très très rapidement les flux économique et la relocalisation éventuelle des entreprises. Et on voit bien que ce qu'on a appelé le sandwich irlandais ou le fait de faire remonter à la fois des bénéfices sur certains pays où la taxation est plus faible et éventuellement de les localiser est permis parce que on est sur des flux d'informations qui circulent et on voit aujourd'hui que les modèles d'affaires changent très très rapidement et permettent justement cette extrêmement forte fluidité des modèles.
Et pourtant ces concentrations posent un certain nombre de problèmes. Selon l'économiste Philippe Aguillon, la concurrence est essentielle à la bonne marche de l'économie. On l'écoute.
La concurrence a un effet positif, parce que la concurrence, en fait, on innove pour échapper à la concurrence. Donc là, on sait que la concurrence a un effet globalement bon pour la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les innovateurs en termes des rentes de monopole qu'ils ont de manière temporaire quand ils ont un produit meilleur que les autres. Mais il faut protéger les droits de propriété intellectuelle, mais il faut quand même avoir une politique de la concurrence. Parce que, en fait, la combinaison de la politique de la concurrence et de la politique de brevet est très bonne, parce que on innove pour échapper à la concurrence, mais si on savait qu'on serait tout de suite imité, ça serait le cas s'il n'y avait pas de protection de droits de propriété, il n'y aurait pas d'incitation à innover pour échapper à la concurrence. Donc il faut ces deux outils-là. Donc la concurrence est très importante, puis la concurrence est profondément importante, puisque si on n'a pas de concurrence, il n'y a pas de création et de destruction d'entreprises ou d'activités qui sont vraiment l'essence même du processus d'innovation.
Sans concurrence, il ne peut y avoir d'innovation. Emmanuel Combes, on entend l'écho de Schumpeter dans ces mots.
Si on a une vision dynamique, en réalité, ce que dit Philippe, c'est que la concurrence et le monopole, c'est deux phases d'un même processus en réalité. Mais le monopole est bien vu comme quelque chose de transitoire. Hein. Un patent, un brevet, normalement, c'est attribué pour 20 ans. Et là où le droit de la concurrence retrouve ses droits, si lorsque votre brevet est expiré, vous mettez en œuvre des pratiques pour prolonger de manière, si j'ose dire, illicite ce brevet. Prenons un exemple très simple. Hein. Vous avez un médicament, vous avez un brevet, très bien. Votre médicament, votre brevet expire et vous allez mettre en place, par exemple, des pratiques de pay for delay. Vous payez des génériqueurs pour qu'ils ne rentrent pas sur le marché. Là, je crois que tout le monde comprendra la différence entre un bon monopole lié à une innovation, et un monopole qui va perdurer simplement parce qu'on met en place des pratiques qui sont illicites. En l'espèce, ce n'est pas une pratique d'abus, c'est une pratique d'entente, qui a été condamnée à plusieurs reprises en Europe.
Et donc la question qui se pose dans le cas des GAFA, c'est l'obstacle à l'innovation que ces concentrations peuvent constituer, Pierre-Jean Benghosi.
Oui, tout à fait. On est, d'autant plus qu'on est dans la configuration particulière qu'on pourrait appeler une concurrence monopolistique, hein, à savoir qu'on n'est pas dans une concurrence où chaque acteur, chaque concurrent propose des produits similaires entre lesquels les consommateurs vont choisir. On est dans une situation où chaque acteur propose des produits qui sont spécifiques et où la concurrence s'opère entre des acteurs qui ont donc des offres particulières. C'est exactement la même chose quand vous allez au cinéma. Disney est le seul à produire des films avec la licence Marvel, et si vous voulez voir Marvel, vous êtes obligé d'aller chez Disney, même si il y a la concurrence avec d'autres films. Donc on est dans des situations comme ça, si vous voulez, un moteur de recherche ou un réseau social, il n'y a pas tellement de choix, ou le choix est très très limité. Donc la question, c'est bien quel principe économique pour organiser justement à la fois cette concurrence monopolistique, cette concurrence dans la situation où chaque acteur a une forme de monopole liée à un brevet, liée à une propriété intellectuelle, liée à sa capacité d'innovation. C'est ça qui crée la dynamique d'évolution schumpeterienne que vous évoquez, mais c'est aussi ça qui rend difficile effectivement la régulation.
François Lévesque.
Oui, avec un changement, une nouveauté, mais là, qui pose beaucoup de questions, c'est est-ce que finalement ce monopole temporaire qui récompense les innovations, qui récompense ces entreprises qui ont fait des efforts, est-ce qu'il va être contesté? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde où ces monopoles, eh bien, ne vont plus être temporaires mais durables? C'est-à-dire,
à cause des barrières à l'entrée trop importantes.
C'est-à-dire que ces entreprises ont des positions dominantes globales sur à peu près partout sur la planète, sauf en Chine. Les barrières à l'entrée sont très élevées. Donc, est-ce que Amazon, est-ce que Facebook, est-ce que Google va être remplacé un jour par d'autres entreprises comme Nokia qui a été remplacé, comme le BlackBerry qui a disparu?
La question
est ouverte.
C'est effectivement, est-ce que la domination des géants américains empêche l'émergence de nouveaux acteurs?
Ce que dit François est important, il faut qu'on distingue l'innovation incrémentale. Si vous voulez faire du Facebook amélioré à la place de Facebook, disons-le tout de suite, c'est mort. Hein. Mais on ne peut pas exclure une innovation radicale, complètement disruptive, à laquelle personne n'a pour l'instant pensé, qui viendra remplacer. Donc c'est paradoxal. Ils sont à la fois dominants, mais comme toute entreprise, ils ne sont jamais à l'abri d'une innovation disruptive. En clair, la probabilité que leur position dominante prenne fin est faible, mais elle n'est pas exclue. Je vous rappelle que MySpace existait avant Facebook.
Elle n'est pas exclue, mais on a affaire à des entreprises qui ont des budgets
de R&D
absolument colossaux, et avec des entreprises qui rachètent, et le droit de la concurrence devrait se réformer de ce point de vue-là, qui rachètent des futurs concurrents.
Ouais. Rachètent des futurs concurrents, justement, potentiellement, pour étouffer des innovations, ouais, Emmanuel.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la problématique des killer acquisitions, qui a été observée, qui a été mesurée dans le domaine de la pharmacie, où des laboratoires, ça a été démontré, 6% des rachats avaient pour seul objectif de mettre fin aux médicaments dont le développement pourrait porter atteinte aux médicaments que je détiens. Il n'est pas exclu qu'on ait ces stratégies en matière de numérique. La question est comment vous démontrez une killer acquisition. C'est-à-dire l'idée, c'est que vous rachetez un petit concurrent dans le seul but de l'étouffer pour qu'il ne vous fasse pas d'ombre. Théoriquement, on voit bien le concept. De manière opérationnelle, comment est-ce qu'on va faire dans un temps limité? Je vous rappelle que le contrôle des concentrations, c'est un contrôle préalable. Comment on va faire dans un temps limité pour repérer si une fusion est faite pour développer un produit ou pour l'empêcher de vivre? C'est quand même très compliqué. Mais théoriquement, j'entends en effet le point que soulève François.
On voit bien les conséquences que ces positions dominantes peuvent avoir sur les entreprises et d'éventuelles entreprises concurrentes. On peut se demander quel impact ça a sur les consommateurs, parce que traditionnellement, Pierre-Jean Magosi, le droit de la concurrence vise à protéger les consommateurs.
Oui, il vise à protéger les consommateurs, puisqu'en fait, la concurrence, elle permet des prix justes, elle permet de favoriser l'innovation, ça a été rappelé à l'instant. La difficulté aujourd'hui, c'est que, effectivement, les entreprises, les grandes entreprises dont on parle, les GAFA, ne sont pas sur un simple marché. Ne sont pas simplement sur le marché des moteurs de recherche ou le marché des plateformes de vente de produits ou le marché des réseaux sociaux. Et leur capacité d'acheter des concurrents, d'acheter des innovateurs potentiels, elle est sur leur cœur de métier, mais aussi sur tous les secteurs. Google aujourd'hui est présent dans les câbles sous-marins, il est présent dans les automobiles, dans les médias,
dans les thermostats pour radiateurs.
Dans les thermostats pour radiateurs, etc.
Donc, alors, quels effets sur les consommateurs, selon vous?
Les effets sur les consommateurs, c'est là le paradoxe de la régulation d'une certaine manière, et c'est la défense d'ailleurs que mettent en avant les GAFA. C'est-à-dire, nous, on propose un service aux consommateurs, et a fortiori, dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Donc la question, c'est au nom de quoi réguler un service qui est gratuit, qui est fourni et qui fournit dans certains cas des services qui ne sont pas fournis par l'acteur public. Prendre un autre exemple dont on n'a pas parlé, mais Waze par exemple, qui est un logiciel qui va permettre de choisir la meilleure trajectoire couplée avec un GPS, est un service qui est bien plus efficace que Bison Futé. D'ailleurs, Bison Futé s'est arrêté pour anticiper les embouteillages.
Emmanuel Combes.
Attention, quand on parle de consommateur, bien entendu qu'à la fin des fins, la victime est le consommateur final, c'est-à-dire vous et nous. Mais en réalité, la première victime d'un abus de position dominante, ce sont souvent des concurrents. Prenez Google Shopping. Qu'est-ce qu'a fait Google? Google, elle a une application Google Shopping qui permet de comparer les prix. Et quand vous tapiez chaussures noires, eh bien Google mettait en avant son propre service de comparaison de prix, Google Shopping, au détriment de ceux de ses concurrents, car l'algorithme les reléguait au fin fond du classement à la quatrième page. Là, quelle est la victime? C'est pas indirectement, c'est les consommateurs, parce qu'il y a moins de comparaisons possibles. Mais la première victime, ce sont bien des entreprises européennes. Donc, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que ce sont les consommateurs. In fine, oui. Mais au départ, le droit de la concurrence est là pour défendre les agents économiques, quels qu'ils soient, contre des atteintes que cette atteinte porte directement sur un consommateur ou pas. Un abus, c'est très souvent contre un concurrent, contre une entreprise.
Et puis un autre effet peut-être de cette concentration des GAFA, c'est la montée des inégalités entre entreprises, François Lévesque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Absolument, c'est-à-dire que, comme Emmanuel a souligné, on observe aux États-Unis une concentration croissante. Et ce qu'on observe également, c'est qu'il y a une inégalité croissante entre les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des entreprises qui réussissaient mieux que d'autres. Mais ces entreprises qui réussissent mieux que d'autres, eh bien, elles font plus de profits que d'autres. Elles ont des parts de marché supérieures à d'autres. Elles ont un salaire moyen pour payer leurs employés qui est supérieur. Et donc, on a des entreprises du haut du tableau, les entreprises superstars. Et cette inégalité entre les entreprises, eh bien, elle a des effets.
Elle se répercute sur les salaires et sur les inégalités.
Absolument.
De la population.
Ces entreprises. Donc, on a des écarts croissants entre les salaires moyens des entreprises. On a aussi, c'est la position dominante ou la position de monopole qui permet d'augmenter les prix, eh bien, et d'augmenter les marges et d'augmenter les profits. Eh bien, les ménages à bas revenus, ils n'ont pas d'épargne. Et donc, ils sont immédiatement impactés par des hausses de prix parce qu'ils consomment tout ce qu'ils gagnent.
La majeure partie
des ménages à haut revenu, ils ont des produits d'épargne et donc si les entreprises font plus de profits parce qu'il y a des positions de monopole ou des positions dominantes qui augmentent, eh bien, eux aussi, ils consomment. Mais il ne faut pas que consommer, donc ils sont quand même mieux situés par rapport aux ménages à bas revenus. Donc, cette inégalité croissante entre les entreprises, elle se traduit aussi par une inégalité croissante entre les ménages.
Et puis, on peut voir les conséquences de cette mainmise des géants du numérique sur les revenus de la publicité, notamment sur les médias. Près d'un journal sur 5 a disparu aux États-Unis depuis 2004, même si, évidemment, la position dominante des GAFA n'est évidemment pas seule en cause dans ce phénomène. L'un des enjeux aujourd'hui pour les médias, c'est de réussir aux États-Unis à négocier collectivement face à Google et Facebook, Pierre-Jean Bengosi ?
Oui, bien sûr, mais c'est le cas des médias, c'est le cas de l'ensemble des secteurs. On a eu l'exemple du livre il y a quelques années avec Amazon et le développement de la vente de livres et des ventes numériques. C'est le cas des médias aujourd'hui. Ça va être aussi le cas de tous les secteurs touchés un à un. Le problème, c'est que le caractère disruptif, l'ubérisation, comme on dit parfois, que ces plateformes permettent en changeant radicalement le modèle économique et le modèle de mise à disposition des informations, des services, oblige les filières traditionnelles à penser ensemble leur évolution et leur transformation. Et si elles ne sont pas capables de le faire avec des propositions collectives qui permettent justement d'être sur le même terrain de jeu, comme on dit parfois, elles iront de plus en plus mal, naturellement.
Et alors, quelles pourraient être les conséquences de ces quasi-monopoles sur l'économie européenne ? On va en parler dans un instant. Écoutez Google It des Fox Heads sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. François Lévesque, Pierre-Jean Bengosi et Emmanuel Combes sont toujours avec nous pour parler du droit de la concurrence face au monopole des GAFA. Alors on va parler maintenant des conséquences de ces monopoles sur l'économie européenne. Il faut peut-être commencer par dire, Emmanuel Combes, que l'Europe a été la première à lancer l'offensive contre Google et on peut peut-être se demander si les États-Unis se sont inspirés de l'Europe pour les mesures qui sont prises actuellement.
Alors je ne sais pas s'ils se sont inspirés de l'Europe, mais ce qui est clair, c'est que l'Europe a été en effet extrêmement vigilante. Alors pas qu'à l'endroit de Google, on citait tout à l'heure l'affaire Facebook en Allemagne. En France, nous, à l'autorité de la concurrence, on a rendu aussi des mesures conservatoires à l'encontre de Google. En clair, Google n'a pas des conditions assez transparentes dans l'usage de ses services publicitaires. Mais pour revenir à votre question, en fait, en Europe, on a eu en effet trois grandes affaires Google. Et c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment à chaque fois, si j'ose dire le même scénario, c'est je suis dominant sur un marché et répétons-le, il n'est pas interdit de dominant, mais je vais utiliser cette dominance, premièrement, pour marginaliser mes concurrents comparateurs de prix, c'est l'affaire Google Shopping. seconde affaire, je suis dominant sur les logiciels d'exploitation pour les smartphones, ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation avec Android, j'ai le droit d'être dominant. Je vais mettre dans mes contrats aux producteurs de téléphones une clause qui dit, si vous voulez Android, il faut préinstaller sur le smartphone Google Chrome et Google Search. Ça, c'est un abus. Et puis, une troisième affaire, c'est dans le domaine de la publicité, puisque Google a une régie publicitaire qui s'appelle AdSense. Et dans cette régie publicitaire, elle interdisait finalement à ses concurrents, car il y a aussi Microsoft, il y a aussi Yahoo, de pouvoir accéder dans des conditions égales au site pour mettre de la publicité. Donc, on voit bien, en Europe, 8 milliards d'euros d'amende, ça n'est pas rien. Et peut-être, on l'oublie trop souvent, au-delà de l'amende monétaire, des injonctions, Google a l'obligation de mettre en conformité, de se mettre en conformité avec le droit à la concurrence. Donc vous avez raison, je ne sais pas si l'Europe a été précurseur, mais l'Europe, si j'ose dire, a été particulièrement allante, notamment à l'endroit de Google.
Il y a une volonté européenne très forte, Pierre-Jean Mengozzi, qui est incarnée notamment par la commissaire européenne Margrét Vestager, dont le mandat a été élargi au numérique. Donc on voit que l'Europe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Oui, et puis, bon, on citait Google, mais il y a encore une vingtaine d'années, une célèbre affaire Microsoft aussi, sur laquelle, je pense que sur cette régulation dans le numérique ou dans les technologies de l'information, l'Europe a été très clairement en pointe par rapport aux États-Unis, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, hein, un repli, en tout cas, des États-Unis sur le volet antitrust. L'élargissement numérique de la commissaire à la concurrence, il est logique d'une certaine manière, hein, les grandes décisions. La plupart des grandes décisions touchaient déjà le numérique et aujourd'hui on voit bien que le numérique n'est pas simplement une nouvelle technologie mais affecte tous les secteurs et que ça soit le transport de personnes, que ça soit les services de santé, les services financiers, etc. Donc d'une certaine manière cet élargissement est tout à fait naturel.
Mais on peut se demander quelle est l'efficacité réelle de ces amendes. Alors vous avez dit effectivement Emmanuel Combes, 8,2 milliards contre Google, ce qui correspond à 3 amendes cumulées contre la maison mère de Google, Alphabet. 5 milliards d'amendes imposées, 5 milliards de dollars d'amendes imposées par l'autorité américaine de la concurrence à Facebook cet été. On a le sentiment, François Lévesque, que finalement ces amendes sont assez indolores pour ces géants que sont les GAFA.
C'est un peu une piqûre de moustique, mais l'autre est fait. Il est aussi en termes de réputation, c'est-à-dire l'image auprès au moins de certains consommateurs, le fait de dire que son comportement a été jugé illégal, c'est pas forcément très bon. Et puis il faut se réjouir aussi comme contribuable, c'est-à-dire la Direction générale de la concurrence à Bruxelles, elle rapporte de l'argent. Et donc les 8 milliards, ils ne tombent pas dans la poche de la Commission européenne. C'est autant d'impôts en moins des contributeurs européens. Ça va directement dans le budget européen. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les contribuables.
Est-ce que ça a un effet véritablement incitatif sur les GAFA, dans la mesure où ils anticipent finalement ces amendes à venir, Pierre-Jean Mengozzi?
Je pense que, comme François Lévesque vient de le dire, c'est pas forcément la somme en soi qui les perturbe, hein, même si elle est pas négligeable, mais elle est négligeable par rapport à son revenu, c'est les effets de réputation, c'est la capacité même à travers les injonctions de continuer à agir sur les différents territoires. Je pense que les obligations qui peuvent être portées et qu'on va avoir à la fois en termes de fiscaux, mais aussi en termes de compliance, ou en tout cas aux règles d'un secteur déterminé, hein, dans le secteur des télécoms. Si vous voulez faire des communications électroniques, aujourd'hui, les opérateurs sont obligés de garder une traçabilité des appels, hein, ce qu'on appelle les fameuses FADET, s'il y a des réquisitions de justice, de fournir des numéros d'urgence, etc. Si des opérateurs via Internet fournissent des services analogues sans s'embêter avec ces obligations, on voit bien qu'on a à la fois des opérateurs qui vont payer des taxes, qui vont mettre en place un système technique qui permet de répondre aux obligations réglementaires et d'autres qui ne le font pas avec des coûts de production qui sont moins élevés. Donc je pense que ces injonctions sont aussi importantes parce qu'elles forcent d'une certaine manière à changer le modèle de production des services.
Emmanuel Combes.
Oui, je partage ce point de vue. C'est-à-dire, au-delà de l'amende, il y a quand même une injonction à se conformer avec la règle. Typiquement dans Google Shopping, Google doit changer son algorithme. Si elle ne le fait pas, elle s'expose, tenez-vous bien, à une sanction journalière égale jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial d'Alphabet. Et d'ailleurs, Microsoft l'a appris, je vous rappelle, à ses dépens. Car elle avait une injonction à respecter, ne l'a pas respectée dans les délais. Et de mémoire, je peux peut-être me tromper sur la somme, elle s'est pris ensuite une seconde amende pour non-respect d'une injonction, premièrement. Secondement, n'oublions pas qu'en Europe, on voit se développer aussi un système de réparation. Les victimes de ces pratiques, qui sont en l'espèce des entreprises, des start-up de comparateurs de prix, peuvent aller devant le juge de commerce et réclamer des dommages et intérêts. Donc attention, dire que 8 milliards, c'est une piqûre de moustique, oui, en même temps, il y a les injonctions. Et je pense que les injonctions, c'est quand même quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Et c'est vérifiable. Si un algorithme est neutre vis-à-vis des concurrents ou ne l'est pas, dès lors que la commission a les compétences techniques, c'est vérifiable. Donc une injonction qui n'est pas vérifiée, l'entreprise s'expose à une sanction relativement redoutable.
On l'a dit, l'Europe est peut-être à la pointe en termes de droit de la concurrence dans cette initiative contre les GAFA. Et en même temps, il y a des critiques qui s'élèvent justement contre ce droit de la concurrence européen qui empêcherait la constitution de géants capables de concurrencer les entreprises américaines et chinoises. François Lévesque, on voit qu'il y a cette ambiguïté entre effectivement poursuivre ces entreprises dominantes, ces géants, et en même temps avoir des géants capables de concurrencer des géants d'autres pays.
Mais là, il y a un cliché qui est complètement faux. Le cliché, c'est que le droit de la concurrence tel qu'il est appliqué en Europe est de façon relativement non laxiste par rapport aux États-Unis. Le cliché voudrait que c'est ça qui empêche qu'il y ait des champions européens. Eh bien non.
Alors c'est pas vrai, c'est pas vrai pour le numérique, c'est peut-être plus vrai pour le ferroviaire quand on pense...
Non, non plus. C'est-à-dire que... le fait qu'il y ait principalement, pourquoi il n'y a pas de champion européen? Parce que le marché européen est fragmenté, parce qu'il n'y a pas un système financier qui prend autant de risques que des capitaux risqueurs en Californie ou aux États-Unis en général, parce que il y a des normes qui sont très différentes d'un pays à l'autre encore, parce que le marché intérieur n'est pas encore complètement créé. Ce sont les raisons principales qui font, qui expliquent pourquoi il n'y a pas des équivalents de Google ou des équivalents de grandes autres entreprises en dehors du secteur numérique en Europe. Et c'est pas le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, là encore, j'ai utilisé cette figure, mais je vais la reprendre, de piqûre de moustique. Le droit de la concurrence a un effet extrêmement faible comme empêcheur de création de champions européens.
Il a quand même empêché la fusion d'Alstom Siemens, bien sûr.
Oui, mais c'était vraisemblablement pas une très bonne idée.
Je nuancerai un peu le point de vue de François Lévesque, parce que effectivement, sur le fond, mais une grande difficulté de la régulation des GAFA, et en particulier en Europe, c'est qu'à la fois, elles ne sont pas sur un marché unique, hein, le marché pertinent est très large, on l'a évoqué tout à l'heure, le territoire d'évaluation aussi, et en fait, on voit bien sur le secteur des télécommunications, par exemple, que la direction de la concurrence au niveau européen s'est opposée à des rapprochements sur des pays donnés, au motif que le regroupement amenait à des concentrations dangereuses pour la concurrence sur un pays déterminé, donc en empêchant d'une certaine manière la consolidation sur certains acteurs. Donc on voit bien qu'on a une difficulté. Si on veut des champions européens, il faut arriver à les faire monter en puissance, mais si on les fait monter en puissance, comment on régule la concurrence entre ces acteurs puissants avec des acteurs plus petits, plus indépendants qui sont sur ces mêmes territoires?
Avec le risque toujours de faire monter les prix, Emmanuel Combes.
Je crois qu'il y a vraiment deux sujets différents. Il y a tout ce qui est abus de position dominante et entente, ce qu'on appelle l'antitrust, où là il serait paradoxal de reprocher à l'Europe d'être trop vigilante, puisque paradoxalement, elle a pour l'instant sanctionné des entreprises qui ne sont pas vraiment européennes, qui sont Google, qui sont Microsoft, etc. Donc, sur ce volet, je ne crois pas qu'il y ait de débat. Le débat, comme le disait Pierre-Jean, c'est plutôt sur le contrôle des fusions-acquisitions, où là, en effet, on a entendu, notamment à l'occasion de Siemens, Alstom, d'un certain nombre de critiques. Moi, je rejoins François sur ce point. Ce n'est pas la faute de la politique de la concurrence si nous n'avons pas de champion en Europe. C'est surtout parce qu'on n'a pas de politique industrielle. Donc, on marche sur une jambe. Si on enlevait la politique antitrust, il n'y aurait plus rien. Donc, mieux vaut se doter d'une politique industrielle ambitieuse de R&D, pour faire simple. Mais on ne peut pas accuser la politique de la concurrence d'être l'auteur de l'insuffisance de nouveaux géants en Europe.
Puis on l'a dit, l'Europe attaque les géants du numérique aussi sur le front fiscal et sur la question de la protection des données. Alors on peut se demander quel est l'impact de ces différentes initiatives et comment les GAFA aujourd'hui répondent à ces différentes attaques qui sont donc menées sur plusieurs fronts, Pierre-Jean Bengosi.
Là aussi, l'Europe est un peu en avance, enfin, sur le volet des données personnelles. La réglementation RGPD a été absolument saluée. Alors, quasiment unanimement sur les principes, avec quelques nuances sur la mise en œuvre concrète.
Donc je rappelle que la directive européenne a été adoptée le 26 mars sur le droit d'auteur et qu'elle impose... Alors, le règlement général sur la protection des données européens, lui, a été adopté en mai 2018. Et il y a ensuite eu une directive européenne sur le droit d'auteur qui impose aux grandes plateformes du web de rétribuer les médias dont elles exploitent les articles.
Voilà, donc il y a une volonté très claire d'aller au-delà d'une régulation qui soit purement économique et concurrentielle en allant attaquer les différents registres que j'évoquais tout à l'heure. Et on aurait aussi d'autres registres, alors, là pour le coup, qui ne sont pas explorés, qui est celui du développement durable ou des externalités, des problèmes négatifs que crée le développement de certains services. Mais là aussi, c'est le marché du travail, on en parlait. Je pense que c'est aussi l'Europe qui est aussi en pointe sur ces registres-là. Et je pense que le cas emblématique du RGPD, qui a aussi été imité d'une certaine manière, en tout cas qui a inspiré des régulations qu'on a pu avoir aux États-Unis ou en Californie en particulier, est important. Et je pense que la question du droit d'auteur servira aussi probablement d'inspiratrice.
Emmanuel Combes.
Oui, Pierre-Jean parlait d'innovation. C'est vrai qu'en Europe, on a par exemple innové avec un concept qui existe depuis longtemps, qui fait très peur aux économistes, hein, la notion de prix excessif. Pour un économiste, un prix n'est jamais excessif, un prix est un prix. Et l'Europe, pour la première fois, il y a 2 ans, 3 ans, enfin, des autorités de concurrence italiennes et puis anglaises, hein, et françaises, ont estimé que dans certains cas, pratiquer un prix qui était déconnecté à la fois des coûts, de la fonction de demande, etc., pouvait être considéré comme excessif. Donc je dirais même qu'en Europe, on a une lecture quand même assez rigoriste et assez stricte de ce que peut être un abus. Alors que traditionnellement, les prix excessifs, ça existe sur le papier, mais on laisse cela de côté. Donc, je rejoins ce que dit Pierre-Jean. On a une vision quand même très, très rigoriste et très, très large de la notion d'abus.
Et sur ce qui est mis en place par les géants du numérique pour essayer de justement esquiver, d'échapper aux différentes actions qui sont menées contre eux, Pierre-Jean Mengozzi.
Oui, la manière d'esquiver, c'est d'abord de jouer justement sur la malléabilité des services et de l'innovation, y compris des grandes transformations. Enfin, Google a racheté des concurrents, mais la grande innovation qu'a porté Google il y a plusieurs années, c'est de se dire l'avenir du moteur de recherche est définitivement compromis parce qu'aujourd'hui la connexion ne se fait plus sur le fixe, elle se fait sur le mobile, et donc je vais investir une partie de l'industrie mobile, non pas en travaillant sur mes moteurs de recherche, mais en investissant directement sur le système d'exploitation et le succès d'Android pour consolider non pas le moteur Google, mais le système de publicité qui est sous-jacent, est un succès absolument phénoménal. Et aujourd'hui, la grande partie du succès de Google tient Android plus qu'au moteur. Et Apple est en train d'essayer de faire la même chose en basculant d'une économie qui est centrée sur la vente de terminaux à une économie qui est davantage centrée sur les services.
Alors voilà pour la stratégie commerciale. Il y a aussi des stratégies en termes de lobbying politique. François Lévesque, en 10 ans, les géants du numérique auraient multiplié par 10 leurs dépenses de lobbying.
Oui, et ça c'est vraiment une différence entre l'Europe et les États-Unis. Tout le monde souligne en Europe qu'il y a énormément de lobbyistes à Bruxelles. Oui, il y a énormément de lobbyistes à Bruxelles, mais la puissance des lobbyistes à Bruxelles n'a rien à voir avec la puissance des lobbyistes à Washington. Donc il y a une capture, il y a une influence absolument incroyable des grandes entreprises aux États-Unis sur les autorités politiques. Et cette influence, elle est incroyablement plus faible en Europe et à Bruxelles. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations, et là, de politique, il y a beaucoup d'interrogations sur les effets néfastes de cette influence de quelques très grandes entreprises sur le pouvoir à Washington.
Sans oublier le fait que les GAFA sont de gros contributeurs aux campagnes du Parti démocrate. Donc, c'est aussi un aspect important. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est faut-il réinventer ce droit de la concurrence? Est-ce qu'il y a besoin de le repenser dans ce nouveau contexte? Et si oui, comment, Emmanuel Combes?
Moi, je crois pas. Je crois que le droit de la concurrence est suffisamment plastique. La notion d'abus, d'ailleurs, de position dominante, c'est une notion qui ne définit pas un listing. Libre ensuite à l'autorité de concurrence de démontrer qu'il y a un abus, mais c'est suffisamment large pour s'adapter, à mon avis, à la réalité du numérique. Par contre, là où il y a peut-être 2 sujets pour les autorités de concurrence, 3, d'abord c'est la question des délais. Le numérique, comme le disait Pierre-Jean, c'est quelque chose qui bouge très vite. Donc il faut que le temps du régulateur s'adapte au temps de l'économie. Ça pose des questions très techniques, notamment la possibilité de mettre en œuvre ce qu'on appelle des mesures conservatoires, des mesures d'urgence. Quand une entreprise vient voir une autorité et dit « bah voilà, j'estime que je suis victime d'un comportement anticoncurrentiel, je vous demande d'exiger que la supposée entreprise qui abuse de sa position dominante puisse mettre fin dans l'attente du jugement au fond », ça existe en France. En Europe, c'est assez compliqué. Donc, il y a le problème du temps économique et du temps de la décision. Il y a le problème de l'expertise. Est-ce que les autorités de concurrence ont toutes les expertises, notamment s'il s'agit un jour d'analyser le contenu des algorithmes? Car un algorithme, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je pense qu'il y a aussi des nouveaux sujets, mais qui ne nécessitent pas des nouveaux outils. Typiquement, on a encore peu parlé, la notion d'entente. C'est une vieille notion. On pourrait avoir des ententes à l'heure du numérique, notamment entre algorithmes. Des algorithmes qui s'entendent sans qu'il y ait besoin d'intervention humaine. Et le prix va s'aligner sur un prix de cartel. On peut aussi avoir des pratiques, pourquoi pas, de prix à la tête du client. Selon que vous, Tiffen, ou moi, tapions la même requête sur Amazon, nous n'aurions pas forcément le même prix, ce qu'on appelle de la discrimination, ce qui peut poser de nouvelles questions en droit de la concurrence. Donc pour résumer, je ne crois pas qu'il y ait besoin de nouveaux outils, mais on va avoir de nouveaux besoins de nouvelles compétences, et il y a sans doute de nouvelles choses qu'on n'a pas encore vues, et notamment cette fameuse collusion par les algorithmes.
Un besoin de nouveaux outils ou de nouvelles compétences
pour... Pas seulement, je pense qu'il faut faire un distinguo, et il est en train de revenir... dans l'actualité, le distinguo entre la politique de concurrence, qui est une politique, comme il y a une politique du changement climatique, comme il y a une politique industrielle lorsqu'il y en a, et puis l'application du droit de la concurrence ou l'application de la politique de concurrence. On a été longtemps dans un monde où c'était les autorités de la concurrence qui faisaient la politique de concurrence d'une certaine façon. Et donc, par exemple, ce sont les autorités de la concurrence qui, très largement, ont décidé par elles-mêmes, et à mes yeux d'économiste, c'est plutôt une bonne décision, mais ont décidé qu'elles étaient là, que leur décision devait favoriser le consommateur et pas l'intérêt général. Mais il y a aujourd'hui des interrogations de politique de concurrence. Est-ce que, eh bien, il faut faire en sorte que le droit de la concurrence défendre l'intérêt général et pas simplement l'intérêt des consommateurs? Est-ce qu'il faut, c'est une décision de politique de concurrence, que le droit de la concurrence prenne plutôt des risques de prendre des mauvaises décisions qui laissent filer des coupables ou prenne plutôt le risque de prendre des décisions qui mettent des innocents en prison? Est-ce que le droit de la concurrence doit tenir compte des effets de position dominante sur le marché du travail? Et donc il y a aujourd'hui, et aux États-Unis c'est très clair, il y a des interrogations sur l'évolution de la politique de concurrence et bien évidemment cette réflexion doit tenir compte du protectionnisme américain et du mercantilisme chinois.
Il y a une réflexion à mener sur cette politique de la concurrence qui évolue avec l'économie numérique, Pierre-Jean Mangosi.
Oui, pour moi il y a effectivement quatre aspects un peu différents. Le premier c'est l'économie numérique est un peu différente sur certains registres. On parlait tout à l'heure d'externalité, des concurrences monopolistiques, etc., de ce que pouvait être l'économie physique classique telle qu'elle a été conçue il y a plusieurs dizaines d'années. Donc le problème, c'est sans doute, est-ce que cette transformation appelle des nouveaux principes d'intervention ou des nouveaux principes pour penser la théorie? Je pense que la montée en puissance, par exemple, des réflexions sur l'économie des plateformes fait partie de ces nouvelles manières de repenser les principes d'action.
Et puisqu'on a vu, par exemple, pardon de vous couper, en France, le régulateur a tenu compte des évolutions liées à l'économie numérique dans le cas de la fusion Fnac-Darty, par exemple.
Voilà, tout à fait.
Ça a été autorisé. Alors rappelez-nous peut-être en un mot ce qui...
Je laisserai peut-être Emmanuel...
Peut-être Emmanuel Combes, François Lévesque.
J'étais dans la décision, oui. Ouais. En fait, pour la première fois, on a pris en compte le fait qu'il y ait des ventes en ligne, ce qui n'avait jamais été fait, pour définir le marché pertinent. Alors, ça a été compliqué, parce qu'aller mesurer la part de marché d'Amazon, c'est compliqué, parce qu'on est sur des marchés locaux, avec des magasins. Or, Amazon, son marché est national. Bref, pour la première fois, et on a répété cette opération dans seloger.com, qui a fusionné avec Immologic. Donc, en effet, l'économie numérique est intégrée dans l'économie, si j'ose dire, classique depuis maintenant plusieurs années.
Voilà. Je vous laisse poursuivre.
Alors, c'est le premier point, c'est repenser les principes d'action. Le deuxième point, c'est quelle volonté politique appliquer. Hein, ça a été aussi évoqué tout à l'heure dans la discussion. Je pense que les outils sont là. La question, c'est aussi la capacité du politique de mener une vraie politique industrielle pour développer des champions, de mener une vraie action pour soutenir les décisions des régulateurs. On l'a vu sur le cas de la fiscalité et de la taxe GAFA de la France. C'est à partir du moment où le gouvernement a été prêt à aller au clash avec le gouvernement américain et les autres pays pour imposer cette taxe que la mesure a pu passer. Et rapidement, un deuxième point, c'est la coordination entre les acteurs et entre les régulateurs. On est sur un système qui n'est pas simplement un problème de concurrence, un problème de fiscalité, mais aussi un problème de données personnelles, de droits d'auteur, de souveraineté, etc. Et donc, les acteurs de la régulation sont amenés à intervenir et à se coordonner entre l'ARCEP et l'autorité de la concurrence. Il y a des échanges réguliers avec le CSA aussi, donc avec la CNIL également. Donc, c'est cette capacité de penser ensemble. Et puis, le dernier point, vous l'avez évoqué vous-même, c'est ce qu'on appelle parfois la régulation par la data ou la capacité d'avoir accès aux informations et aux modes de fonctionnement, le fonctionnement des algorithmes, les capacités de traitement, la neutralité éventuelle des traitements qui sont faits par les plateformes. C'est aussi un aspect important qui relève à la fois du droit pour donner accès, pour que les régulateurs aient accès à ces informations et d'expertise technique, savoir comprendre ces informations.
On a commencé cette émission en parlant des États-Unis, on peut finir aussi en parlant des aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces différentes enquêtes lancées là-bas? Est-ce qu'on peut imaginer un démantèlement des GAFA, justement, comme on le demande la sénatrice Elisabeth Warren, Emmanuel Combes François Lévesque.
Non, je suis assez catégorique dans le sens où on ne peut pas exclure évidemment que dans 10 ans on arrive à ce genre de décision. Mais je pense que le démantèlement, s'il arrive aux États-Unis d'un ou deux GAFA, eh bien ce démantèlement viendra d'un processus politique et viendra de nouvelles lois. Il ne faut pas compter sur les autorités de la concurrence américaine pour prendre une décision qui revient à une bombe nucléaire contre les entreprises, parce que les autorités de concurrence aux États-Unis sont corsetées par de la jurisprudence, sont corsetées par les juges qui vont les retoquer si elles prennent des décisions comme ça. C'est ce qui explique largement leur frilosité d'aujourd'hui. Donc, à travers de nouvelles lois, oui, et donc à travers un processus politique, pourquoi pas un démantèlement, mais c'est pas encore demain.
Pierre-Jean Mengozzi.
Oui, je pense que c'est pas demain, mais par contre, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut pas oublier, c'est qu'au-delà de cette puissance des GAFA, il y a deux dynamiques qui vont aussi faire bouger les choses. La première, c'est la concurrence inter-GAFA. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence absolument sauvage qui est en train de se développer aujourd'hui entre Google, Apple, Amazon et Facebook.
Y compris Alibaba, Xiaomi.
Le deuxième élément, c'est la concurrence entre les GAFA et les BATX, hein, les Baidu, Tencent, Alibaba et Xiaomi, qui sont aussi des acteurs qui, pour l'instant, sont très présents, non pas sur le monde occidental, mais sur le reste, une stratégie de contournement, donc présents en Asie, en Afrique, etc., et qui vont arriver naturellement sur l'Europe. Il y a des accords entre Vivendi et Tencent, il y a des accords qui vont se développer progressivement entre des acteurs européens et des acteurs chinois.
Les consommateurs,
c'est le deuxième élément dynamique.
Qui écoutent l'émission peuvent acheter des biens sur Alibaba.
Et donc finalement, la concurrence va revenir d'elle-même, Emmanuel Combes.
Parce que regardez sur Amazon, n'est-il pas aussi en train de devenir un moteur de recherche? Quand vous cherchez chaussures, est-ce qu'il ne vaut pas mieux directement, dans le but d'en acheter, ne vaut-il pas directement aller sur Amazon? Et d'ailleurs, Amazon se lance dans la publicité en ligne, c'est devenu le troisième acteur depuis 2 ans.
Donc, c'était l'argument de Google.
Exactement. Alors, je ne dis pas que je défends Google, je dis simplement que des évolutions sont possibles.
Et alors, est-ce qu'on peut se demander si les autorités américaines devraient être plus exigeantes dans le contrôle des fusions-acquisitions, puisque ce qui se dit souvent, c'est qu'elles sont plus laxistes que les autorités européennes sur ce point, Emmanuel Combes?
Ça, il faudrait leur demander. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en Europe, on a un standard assez exigeant, on l'a dit tout à l'heure, et moi, je reste convaincu que ce standard exigeant ne se fait pas au détriment de la compétitivité de l'Europe, et que s'il faut bien changer quelque chose aux autorités de concurrence, c'est plutôt en effet l'expertise dans le numérique, comme je le disais tout à l'heure, et la rapidité des décisions lorsqu'il y a urgence pour un acteur qui se voit mis en danger par un abus supposé d'un géant du numérique.
Et bien ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois, François Lévesque, Pierre-Jean Mengozzi, Emmanuel Combes. Merci de nous avoir aidé à décrypter ce droit de la concurrence. François Lévesque, je rappelle votre ouvrage Les avis neufs de la concurrence, publié chez Odile Jacob, et le vôtre, Emmanuel Combes, précis d'économie, dont la 15e édition paraît ces jours-ci chez PUF. Un grand merci à tous les trois.
Merci.
Et comme un vendredi sur deux, nous retrouvons Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous posez cette question: qu'est-ce qu'un système de retraite juste ?
Oui, on en sait un peu plus depuis hier sur le calendrier de la future réforme des retraites. Au-delà du débat sur un âge pivot à 64 ans ou pas, l'idée même de passer à une retraite à points semble désormais rencontrer un consensus assez large, parce qu'il s'agirait d'un système plus juste. C'est une idée qui ne tient pourtant pas vraiment la route.
En quoi la retraite à points serait-elle problématique, Guillaume ?
Tout d'abord, pour que le contrat social qui établit un système de retraite soit clair et crédible, il vaut mieux que la collectivité s'engage explicitement sur un niveau de revenu garanti aux futurs retraités en fonction de leurs revenus passés. Quitte à faire évoluer ensuite cette prestation définie, comme on dit, si un déséquilibre financier trop important se profile. Le système par points présente comme principal avantage, entre guillemets, aux yeux de ses promoteurs, de faire disparaître cet engagement explicite. Vous versez des cotisations, mais vous ne savez pas vraiment combien vous toucherez ensuite, parce que cela dépendra de la valeur donnée aux points accumulés par une décision politique ultérieure. Un moyen très pratique, a priori, pour faire baisser les retraites futures sans débat collectif.
Alors, peut-être, Guillaume, mais il est quand même aussi plus juste, parce que 1 euro cotisé donnera à tous les mêmes droits.
Oui, c'est ce que dit le gouvernement et c'est un argument très fort en effet, mais cette justice apparente n'en est pas réellement une. Fonder le niveau de la retraite à l'âge de 65 ans sur les cotisations versées pendant toute la carrière revient à donner le même poids à la rémunération reçue à l'âge de 25 ans qu'à celle touchée à 60 ans pour le calcul de la retraite future. Cela veut dire qu'on va créer des inégalités importantes de niveau de retraite entre des gens qui, en fin de carrière, ont eu des niveaux de vie équivalents. On va faire payer très cher en particulier, 40 ans plus tard, celles et ceux qui auront eu au début de leur vie professionnelle des petits boulots mal payés. Et on récompensera au contraire les fils et filles de bonne famille sortis d'une grande école pour connaître ensuite des carrières sans heurts, toujours bien payées. Et surtout, on va obliger les jeunes à penser constamment dès l'âge de 20 ans à leur retraite future et à se comporter en fonction de ça, alors qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Il n'y a guère de raison, en fait, que le niveau de retraite doive refléter l'ensemble de la carrière salariale. Elle doit avant tout permettre aux retraités de continuer à vivre avec un niveau de vie qui se situe dans un rapport raisonnable avec celui qu'ils avaient auparavant, tout en limitant les écarts excessifs, bien sûr, vers le bas comme vers le haut, par des mécanismes de redistribution.
Qu'est-ce qui vous paraît souhaitable alors dans ce cas ?
Bon, la situation actuelle est à coup sûr très insatisfaisante, avec tous ces régimes différents répondant à des règles distinctes. Mais il vaudrait mieux, à mon sens, chercher à les unifier dans un système du type de la retraite de base du secteur privé actuel, avec une condition de durée de cotisation minimale pour avoir le droit de toucher une retraite pleine et un niveau de retraite correspondant à X% du salaire des Y meilleures années. Cela n'éviterait certes pas des débats très vifs sur ces différents paramètres, mais je crois que ce serait plus clair et plus juste.
Merci beaucoup Guillaume Duval. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Et je rappelle la une d'Alternative économique ce mois-ci consacrée aux 7 péchés du capitalisme.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along.
On se quitte avec Shotgun de George Ezra. La semaine prochaine, direction l'Allemagne. L'économie allemande menacée par la récession doit-elle aujourd'hui se réinventer? Berlin va-t-il en finir avec le dogme de l'équilibre budgétaire? Et le pays est-il en train de perdre son pari énergétique? Allemagne, la fin de cycle, c'est notre sujet la semaine prochaine d'Entendez-vous l'écho. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.